Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de la Grande Table aujourd'hui, dévolue comme chaque jour aux idées et au savoir, le macronisme est-il un saint-simonisme? Le nom de ce philosophe du 19e revient souvent en ce moment comme source d'inspiration de la politique du président. Quelle filiation entre lui et ce penseur de la modernité? On en débat avec les philosophes Pierre Musso et Juliette Grange après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, un serial writer, maître du thriller. Il est l'une des têtes d'affiche du festival Quai du Polar qui vient de s'ouvrir à Lyon. Il y rencontrera son public aujourd'hui à 18h, avant de partir dans le sud de la France, présider Cannes-Série, le nouveau festival qui a débuté cette semaine et qui se tient jusqu'au 11 avril, où sa nouvelle série Safe sera d'ailleurs présentée hors compétition. Son dernier roman, Sans défense, vient de paraître chez Bellefond. Multiple actualité donc pour notre invité, le grand Harlan Coben, et c'est peu dire.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
À quelques secondes près, ne t'éloigne pas, à toute épreuve, 6 ans déjà, tu me manques, intimidation ou double piège. Des titres de romans qui, mis bout à bout, ressemblent à une charade, ceux de Harlan Coben qui nous revient avec Sans défense, à moins que ce soit nous, face à vous, qui le soyons, sans défense. Bonjour Harlan Coben.
Hi, nice to be here. Thank you for having me.
Et bonjour à votre voix française. Bonjour,
bonjour
Pascal Fougère. Sans défense, on l'est un peu face à vous. Vous êtes immense, mais on ne risque rien.
Who, me?
Oui.
No, I'm
avec
gentle.
Non, pas du tout, je suis très gentil.
I get it all out in my books.
D'une certaine manière, c'est dans mes livres que je mets toute cette méchanceté ou violence. Je crois que c'est Flaubert, c'est une paraphrase en fait, hein, mais il a dit quelque chose comme voilà, soyez bourgeois et normal dans votre vie réelle et comme ça, ça vous permettra d'être violent et original dans votre travail.
Donc ce côté bandit n'existe que dans vos livres où vous mettez votre part sombre et dans votre vie, on voit au contraire votre face lumineuse. Est-ce que, si on revient sur ce rapport fiction-réalité, vous êtes un très bon enquêteur sur le papier, mais dans la réalité. Est-ce que vous pensez que vous feriez un bon détective, Harlan Coben?
No, I don't think so.
Non, je ne crois pas.
I'm good at making things up.
Voilà, je suis bon pour inventer des choses.
I'm good at playing pretend.
Je joue à comme si, en fait. Hein. Là, je sais faire.
I'm not very good with reality.
Je ne suis pas très bon dans la réalité.
I'm not very good with real research.
Je ne suis pas très bon pour faire des vraies recherches.
And I like to imagine things.
Et j'aime imaginer des choses qui ne sont pas vraiment existantes, en fait.
Où est-ce que vous trouvez toute votre imagination, le matériel pour écrire vos romans? Est-ce que vous allez quand même vous baigner dans la littérature des commissariats, vous plonger dans les procès-verbaux, dans les enquêtes qu'ont pu réaliser d'autres, ou est-ce que tout sort de votre imagination?
Généralement, ça commence par quelque chose qui se passe dans ma vie ou par quelque chose que j'ai lu. Hein, et puis après, je vais retourner cette chose-là, en fait, la détourner. Par exemple, on a eu cette série télévisée Juste un regard avec Virginie Ledoyen il n'y a pas très longtemps. Et l'idée, c'était, je regardais des photos de famille. Et puis, en regardant ces photos, je vois une photo, je me dis, mais je ne me souviens pas l'avoir prise. Et du coup, je me suis dit, voilà, s'il y avait une photo toutes ces photos que je n'avais pas prises, et si cette photo devait changer toute ma vie. En fait, ça a été le début, en fait, pour Juste un regard, l'espèce de pied de grès, mais c'est ce qui se passe à peu près pour chaque livre.
Et d'ailleurs, les images sont des pièces à conviction récurrente dans vos livres et dans vos séries. Elles le sont au même titre que les mails, ces indices qui ramènent souvent à la réalité ou en tout cas au grand jour des personnes disparues. Je voulais quand même juste revenir sur ce rapport, une fois encore, entre fiction et la réalité. Est-ce que vous pensez qu'on est déterminé? Est-ce que vous pensez que vous étiez fait pour devenir écrivain, que vous y étiez prédestiné? Je vous propose d'écouter d'abord la réponse de l'un de vos écrivains préférés, je crois, l'Américain Philip Roth.
I had no idea how anybody turned into anything.
Je n'ai aucune idée de comment les gens finissent par devenir quelqu'un. Quand j'étais jeune et que j'ai commencé la fac, je voulais être avocat. Je ne voulais pas réellement être avocat. Je pensais juste que c'était quelque chose que je pouvais faire. J'étais passionné par l'égalité et la justice aux États-Unis. Je suppose que ça vient du fait que j'ai grandi dans une famille juive. Je pensais que si j'étais avocat, je mettrais ma marque sur la vérité et sur la justice. Pendant un an, j'ai suivi des cours de droit en classe préparatoire. J'en ai aimé certains. Mais j'ai recommencé à penser à la littérature et je me suis senti appelé, de nouveau. Cela l'a emporté sur tout le reste. J'ai quitté mon poste d'enseignant à l'Université de Chicago et je suis arrivé sur la côte Est avec mes $800 en poche, pensant que je pourrais vivre pour $100 par mois. Et c'est ce que j'ai fait. C'est à ce moment-là que je suis devenu écrivain. Mais ce n'est pas quelque chose dont je rêvais, que je voulais. Je n'y avais jamais vraiment pensé.
Et vous, Alan Coben, vous l'avez toujours su ?
Dieu, je dirais à peu près la même chose, en fait. Une histoire. On est tous les deux des gars juifs, hein, du New Jersey, et j'allais effectivement faire du droit, et à la même université que Philip Roth a fréquenté comme enseignant, hein, l'université de Chicago, voilà, j'y allais. Et puis, j'avais un tout petit intérêt pour l'écriture. Et mon grand-père avait besoin d'un coup de main, hein, pour son entreprise. Donc, il m'a demandé, en fait, d'attendre une année avant de rentrer à l'université. Et puis, en fait, j'ai attendu encore une année de plus. Et après, je ne suis pas allée. Mais comme Philip Roth, je ne savais pas quand j'étais enfant que je voulais être écrivain. Je sais que c'est une réponse en fait que les écrivains généralement vous donnent. Hein. Quand j'avais 4 mois, je savais déjà que j'allais être écrivain. Et voilà, ou quand j'étais enfant, je racontais des histoires aux gens et tout ça, hein, toutes ces bêtises en fait. Mais moi, ça m'est venu plus tard.
Il a fallu combien de manuscrits, combien de livres écrits qui n'ont pas été publiés avant le premier ?
Trois, je pense. Peut-être deux. Mais je crois qu'en fait, c'est trois. Mon premier livre a été publié quand j'avais 28 ans. Et mon premier roman, évidemment, s'était inspiré de ma propre vie. Hein. C'est généralement le cas pour les premiers romans. C'est pour ça qu'ils sont très mauvais. Ils sont très narcissique en fait. Et j'avais travaillé en Espagne en fait pour des Américains qui voyageaient en Espagne. J'étais guide, hein, et donc voilà. Donc c'était l'histoire en fait, hein, de ce formidable guide pour touristes américains. Je ne sais même pas si j'ai encore d'ailleurs ce livre, ce manuscrit. Et puis après, j'ai commencé à écrire ce que j'aimais lire, en fait. Hein. On peut dire, en fait, des romans policiers. Moi, je préfère parler de romans d'immersion, en fait. Ce bouquin que vous emmenez en vacances et qui fait que vous ne quittez pas votre chambre. Ce livre que vous commencez à 11h du matin en disant « je vais lire pendant 20 minutes ». Et puis, la prochaine fois que vous regardez l'heure, il est 4h de l'après-midi. Et voilà, c'est ce genre de livre que j'essaye d'écrire.
Ça, c'est la définition d'un bon livre pour vous, Alan Coben.
Non, c'est seulement une partie. Voilà, tout ce que je lis, en fait, hein, j'ai envie que ça m'aspire, j'ai envie de rentrer dans le monde du livre, complètement, disparaître. Et voilà, on a juste entendu Philip Roth, c'est mon écrivain favori, hein, de tout temps, et c'est vraiment l'effet qu'il a sur moi. Hein. Si je commence son livre à 11h du matin, je vais lire jusqu'à 4h du matin, en fait.
Vous dites souvent que votre héros, Myron Bolitor, est votre double en mieux, excepté sur la question des femmes, avec lesquelles, lui, il a quelques difficultés à faire affaire, va-t-on dire. Le côté sériel de vos romans, Alan Coben, quel plaisir vous trouvez à retrouver vos personnages, à les voir vieillir d'un livre à l'autre ?
So I'm very lucky.
J'ai de la chance.
Hein.
J'ai plein de romans unitaires, en fait, avec des personnages. Et puis à côté, j'ai cette série avec Myron Bolitor.
Et
je pense que mes 12 derniers livres, Myron, il a seulement été dans 2 ou 3 livres, je crois. Et ce qui est amusant avec Myron, c'est que d'une certaine manière, c'est comme rendre visite de nouveau à un vieil ami. Et lorsque je regarde chaque livre de Myron, c'est un peu comme un chapitre d'un grand livre. Et d'une certaine manière, ce sont des livres qui pourraient être considérés comme des unitaires, puisqu'ils n'ont pas, il n'y a pas de suite. Voilà, dans ce nouveau livre-là qui vient de sortir, Sans défense, il y a beaucoup de gens qui vont découvrir le personnage de Myron et qui ensuite pourront aller lire les autres. Mais ça a été amusant, vraiment, et agréable. Quand j'ai commencé à écrire sur Myron, il avait 28 ans et maintenant, il a une quarantaine bien entamée. Et évidemment, il a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de tragédies dans sa vie. Et je crois qu'on a commencé tous les deux à peu près sur la même ligne ou à peu près au même niveau. Et puis, je crois que ma vie est devenue meilleure que la sienne. Voilà.
Est-ce que comme vos personnages, comme Wynne notamment, dans Sans défense, vous voudriez parfois que le temps s'arrête?
Oui, alors pour les personnages, c'est possible, parce que d'une certaine manière, ils ont une temporalité différente, ils vieillissent différemment que moi, ils vieillissent plus doucement. Et je crois qu'avec la fiction, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut aller en avant, on peut repartir dans le passé, on peut rester. J'ai jamais voulu la série de Myron Golitar comme Hercule Poirot ou Sherlock Holmes, des romans où il résolvait seulement une affaire criminelle. Je voulais qu'à chaque fois, il avance dans la vie, il a des parents, il a des amoureuses, il a des amis. Et je crois que c'est quelque chose que les lecteurs ressentent. Il y a toujours quelque chose de personnel dans les histoires que traverse Myron et des choses qui m'intéressent.
Je voudrais que le temps s'arrête. Ce sont les derniers mots de Sans défense qui paraît donc chez Belfond et on ne dira pas pourquoi. Il voudrait que le temps s'arrête. 11e pierre posée à l'édifice des Myron Bolitor, votre détective fétiche, enquête cette fois sur la disparition de deux enfants kidnappés 10 ans auparavant. L'un d'eux réapparaît pour redisparaître aussitôt, aidé de son fidèle ami Bolitor. Donc, Wynne Lockwood repart à la recherche de la vérité. Arlene Cobain, vous voudriez parfois que le temps s'arrête et pourtant, avec vous, le passé reste un temps mystérieux qui finit toujours par refaire surface, disparaître, réapparaître. C'est un motif cobénien, pourrait-on dire, votre marque de fabrique. L'écrivain, comme un magicien qui peut réaliser ce tour de passe-passe, doit quand même toujours, à un moment ou à un autre, révéler les ficelles de son tour de magie.
Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup recours aux disparitions.
Agatha Christie wrote Murder.
Il y a eu l'expérience juive de Philip Roth, Agatha Christie a écrit sur des disparitions. Moi, j'écris beaucoup sur les disparitions, pas toujours, mais la plupart du temps. Ce que j'aime avec la disparition, c'est comme dans une disparition, il y a toujours de l'espoir. Et l'espoir, ça peut être quelque chose de formidable ou quelque chose d'affreux. Si quelqu'un meurt, voilà, ça y est, c'est fait. On peut, d'une certaine manière, rendre justice aux morts, mais il n'y a pas de rédemption vraiment possible. Alors que si quelqu'un a juste disparu, la rédemption est possible. Et dans le cas de Sans défense, j'ai vu beaucoup d'histoires où il y avait un enfant disparu qui réapparaissait plusieurs années plus tard. Mais là, je me suis dit, voilà, si deux enfants disparaissaient et qu'un seul revenait, qu'est-ce qui se passerait? Et ça, ça m'a vraiment intriguée comme point de départ.
Disparition, réapparition, c'est aussi au cœur de Ne le dis à personne, adaptation au cinéma par Guillaume Canet de l'un de vos romans. C'était en 2006, sa sortie en France, Ne le dis à personne, dont vous étiez co-scénariste. Ce fil conducteur, celui-là ou d'autres, au cœur de chacun de vos romans, de vos polars, Arlene Cobain, et des intrigues parallèles qui se nouent au fil des pages comme des digressions dans un récit, avec des ramifications multiples et des rebondissements qui n'en finissent plus. Est-ce que tout ça, ça tient aussi à votre manière de travailler, sans plan, avec juste un début et une fin?
Alors c'est vrai, je connais le début et je connais la fin de mes histoires et c'est la seule chose que je connais. Alors, peut-être que je trouve les disparitions fascinantes parce que j'ai perdu mes parents jeunes. J'étais pas un enfant, mais je venais d'avoir à peu près 20 ans lorsque mon papa est mort. Et je crois que il y a cette idée comme ça d'envie que les gens soient encore là. Hein. Mon père est décédé depuis maintenant 30 ans, mais j'ai toujours cette idée, en fait, que 3-4 fois dans l'année, qu'il soit là. Et je crois que ça vient avec cette idée de disparition et réapparition. Souvent, les gens ne reviennent pas, ils sont partis pour de bon, mais ça pourrait être... ça pourrait avoir à voir avec l'origine. Et je trouve ça fascinant. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est très lié à la condition humaine. Parce que face à la mort, on a eu une réaction donnée. Mais par rapport à la disparition, c'est d'une certaine manière presque une loupe qu'il est intéressant de mettre par-dessus les êtres humains.
Et le mystère, quelle est l'importance du mystère à la fois dans nos vies et dans vos livres, Harlan Coben? On va écouter ce qu'en dit l'un des maîtres du genre, l'écrivain spécialiste de romans noirs, Raymond Chandler, au sujet de son détective fétiche, Philip Marlowe.
Can I help you, sir?
Oh yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track like the Maltese Falcon.
Well, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. What a picture that'll make.
Mind if I look at it?
Of course, if I had Marlowe killed off and solved a lot of problems, I wouldn't have to write any more books about him.
Si j'avais fait tuer Marlowe, bien sûr que ça résoudrait pas mal de problèmes. Déjà, je n'aurais plus à écrire de livres avec ce personnage. Il faut toujours un élément de mystère. Plus précisément, il faut une situation mystérieuse. Le détective ne comprend pas encore exactement de quoi il s'agit, mais il sait qu'il se passe quelque chose de bizarre. Pour moi, le vrai mystère n'est pas de savoir qui a tué Sir John dans son bureau, mais quel était l'enjeu de cette situation, ce que les tueurs cherchaient, quelle sorte de personne ils étaient.
Et dans votre livre, Harlan Coben, Sans défense, vous évoquez la figure d'Humphrey Bogart. Votre personnage dit « C'est comme si Wynne et toi, c'est Thérèse qu'il dit, aviez été parachuté dans un vieux film d'Humphrey Bogart. » Il répond « Je suis trop jeune pour ce genre de référence. » Alors vous, peut-être pas le vrai Harlan Coben. Vous venez d'entendre un extrait du Grand Sommeil, film de Howard Hawks, adapté donc de Chandler avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa définition du mystère, celle de Raymond Chandler ?
Oui, partiellement. Quand j'ai inventé Myron Belita, je voulais en fait reprendre ces personnages de Marlowe et les transposer aujourd'hui. Et Chandler a aussi dit que ces personnages traversaient ces rues louches tout seuls. Hein. Myron, il n'est jamais tout seul. Il y a Wynne, il y a Esperanza, il y a Big Cindy qui sont ses amis. Il n'est jamais tout seul, en fait, hein, dans ces rues louches. Et je pense que la vie en soi c'est un mystère. Et mon expression juive favorite est que Myron utilise dans chacun des livres. Hein, c'est quelque chose qui est là, comme ça. Voilà, l'homme fait des projets et Dieu rit.
Hein,
et ça, je crois que c'est le mystère de la vie en fait.
But I also, you know, the novel, I like this creative situation.
Mais j'aime créer des romans où vous n'allez pas pouvoir imaginer comment ça va finir.
Hein. But it's more important to me
qui va faire les choses. Mais plus important que qui a fait ça, pour moi, c'est la résonance émotionnelle. Je pense que la fin de ce livre est choquante. Hein, la fin de Sans défense, pas seulement parce que c'est une surprise, mais parce que ça va vous toucher émotionnellement de manière un peu particulière. Hein. Voilà, c'est mon propos, en fait. Hein.
Vous allez spoiler la fin de votre propre roman, Harlan Coben?
Absolument
ça,
pas.
Ça serait criminel. Hein.
Non, je crois que de toute façon, il y a tellement de rebondissements et de retournements dans le livre que d'une certaine manière, même si je vous disais quelque chose maintenant, vous auriez du mal à le croire.
Mais moi, je peux le dire. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour m'en empêcher ?
J'ai pas de revolver avec moi, j'ai pas de couteau.
Voilà le prix d'une intrigue quand même.
Je peux attraper les gens qui sont à la régie en ce moment, je suis sûre qu'ils sont de mon côté.
Hein?
Je vais juste crier pour qu'ils arrachent les filets, la prise électrique.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Alan Coben, vous êtes aussi cette année le président de Cannes Série, un tout jeune festival, première édition. 10 séries internationales en compétition cette année, aucune série française. Qu'est-ce que la série fait à la figure de l'auteur? Ça, c'est une question qu'on peut vous poser à travers d'abord ce témoignage d'Anne Landois, showrunner de la série Engrenage, série française. Elle nous raconte comment la création collective d'un scénario comme celui d'Engrenage transforme le travail solitaire de l'écrivain.
La première étape, elle est faite par mon co-scénariste qui s'appelle Éric de Barahir et qui est commissaire de police de son état. Donc lui, son premier travail, c'est qu'il écrit une trame policière écrite du point de vue des flics. Donc ce sont des enquêtes en général assez fouillées, c'est écrit de façon extrêmement réaliste parce qu'il nous fait part de son travail, des difficultés qu'il a eues. C'est souvent inspiré de faits réels. Souvent, il mélange plusieurs histoires les unes avec les autres. Et à partir de ça, à partir du moment où on a cette arche policière, on réfléchit à la façon dont on va faire intervenir nos héros policiers. Donc on a des faits bruts, maintenant il faut bâtir la fiction, les enjeux personnels. Une fois qu'on a nos héros policiers, on se dit, bon, maintenant comment on va faire intervenir le juge d'instruction dans cette affaire? Parce que à chaque fois, en fait, tout le monde intervient dans les histoires. Alors, à différents degrés et pendant des temps différents, mais en tout cas, tout le monde finit par se retrouver autour de cette intrigue. Donc on essaye de voir comment le juge intervient, puis ensuite comment l'avocate intervient, et à chaque fois, en tissant des fils. C'est un travail de couture très précis qui se fait au fur et à mesure. Mais au départ, on a l'intrigue policière. Voilà.
Arlan Coben, créateur et producteur de 2 mini-séries télé, Une chance de trop et Juste un regard ici en France, et de 2 séries originales, la première The Five, diffusée en France en 2016, et Safe avec la française Audrey Fleurot, que les téléspectateurs d'Engrenage ont connu justement en avocate ambitieuse et qu'on attend bientôt sur les télés françaises. Arlan Coben, vous reprendriez aussi cette image de la haute couture pour nous faire partager, nous faire comprendre le travail du showrunner dans une série?
First of all, I love Spiral.
Oui, j'adore Spiral, Engrenage, et donc c'est la première fois que j'ai vu Audrey Fleurot hein, qui est dans Safe, comme vous l'avez dit.
When I listen to this, I'm reminded
quand j'entends ça, il y a une phrase qui me revient là, c'est-à-dire que si vous demandez à 10 écrivains comment ils font, vous aurez 11 réponses différentes en fait. Donc la manière dont je procède pour mes séries télé est très différente. Je ne fais pas en fait une série qui est sur la procédure policière. J'arrive avec un script, un scénario, je commence à raconter un peu l'histoire, je dis la fin et tout ça, c'est un travail que je fais en solitaire. Et après, je rencontre généralement 2 autres scénaristes. Pour Safe, en fait, mon co-scénariste principal, c'est Danny Brocklehurst, qui a fait beaucoup de séries télé. Et je commence à raconter cette histoire que j'ai dans la tête. Ensuite, ils vont me poser des questions. Et donc, on passe des heures comme ça, à échanger, à discuter. Et donc, on va essayer ensuite de faire une espèce de plan. Et puis, on se retrouve une nouvelle fois en se disant qu'est-ce que ce sera l'épisode 1, l'épisode 2. Voilà, là, on a un trou dans l'intrigue. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la motivation de ce personnage? Où est-ce qu'il va à partir de là? Des milliers de questions, en fait. Et une fois que ça s'est terminé, donc on a pour chaque épisode un plan très, très précis. Et puis après, donc, on a des scénaristes qui vont écrire chacun des épisodes et on les réécrit. C'est en gros comment on travaille. C'est différent, je crois, pour les séries françaises, puisqu'on avait à chaque fois le livre et donc on avait déjà l'histoire.
Est-ce que c'est différent, justement, de travailler ou de créer pour une télévision française? On sait qu'il y a des grosses différences entre une procédure pénale française et le droit anglo-saxon, inquisitoire, accusatoire. Est-ce qu'il y a aussi des différences culturelles dans le traitement littéraire ou télévisuel d'une enquête policière? Est-ce que vous vous adaptez au public pour lesquels vous travaillez, peut-être dans notre degré d'acceptation de la violence ou dans les formes qu'elle peut prendre?
pense.
I don't really worry too much about that.
Non, je ne m'inquiète pas trop à propos de ça. Hein. On a des experts qui vont me dire, voilà, la police ne procède pas comme ça ici, ça se passe comme ça. Je ne me suis jamais trop inquiétée par rapport à attirer un public particulier, français, allemand, anglais. Hein. Je crois que tous, ils arrivent à comprendre mes histoires. Je crois que d'une certaine manière, le cœur de l'histoire est toujours à peu près le même. En tout cas, ce n'est pas des choses dont je me préoccupe. Après Sidney Gallonde, qui était mon producteur en France, hein, peut-être qu'il s'est inquiété un peu de ça, mais il ne m'en a pas trop parlé. Mais généralement, on a suivi les histoires. Et pour moi, de toute façon, hein, tout dépend de l'histoire. Tout est esclave, en fait, de l'histoire.
On imagine que la série a ouvert un nouveau champ des possibles pour vous, écrivain Harlan Coben, mais est-ce que, à contrario, dans l'autre sens, est-ce que vous diriez que le fait de faire des séries, de concevoir des séries aujourd'hui, va nourrir aussi votre écriture ?
Alors, je ne sais pas si ça va vraiment nourrir, en fait. Hein,
I'm writing my 31st book.
Alors, j'ai écrit 31 livres.
That's a lot of time alone in a room.
Donc, c'est beaucoup de temps passé seul hein, dans une pièce, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis quelqu'un de naturellement introverti.
But it's nice to get out of the room.
Mais c'est bien de sortir de cette pièce et de collaborer avec des gens. Hein.
That I like.
Et ça, c'est aussi quelque chose que
For
j'aime.
Change.
Hein. Pour changer. Voilà, et si je le fais trop, je sais que je vais avoir envie de retourner dans ma pièce, isolée, porte fermée, et écrire tout seul. Et d'une certaine manière, donc, les deux écritures se nourrissent l'une l'autre. Hein. Si je me sens trop seul, je vais travailler à la télé, sur une série, et si je me sens un peu trop entouré, du coup, je vais revenir dans une pièce et m'isoler.
Et vous reviendrez nous voir dans tous les cas en France, Harlan Coben, où les lecteurs vous adorent. Merci beaucoup d'être passé autour de cette grande table. On vous retrouve aujourd'hui à 18h à Lyon pour donner le ton, lancer le festival Quai du Polar, grand festival donc de la littérature noire. Et puis un peu plus tard, ce sera à Cannes pour le festival Cannes Série, le nouveau festival donc sur les séries qui a débuté cette semaine et dont le palmarès sera rendu le 11 avril prochain. Merci beaucoup Harlan Coben. Merci Pascal Fouget.